Bonjour, Benjamin Netanyahou a adressé une sévère mise en garde à l'Iran, affirmant qu'une attaque contre Israël constituerait l'une de ses dernières décisions, je cite. Donald Trump, de son côté, a lui déclaré qu'Israël ne devait pas s'inquiéter de l'escalade actuelle avec l'Iran.
Des centaines de milliers d'étudiants juifs à travers le monde ont reçu une lettre personnelle et un message vidéo de Nate Leipziger, survivant de l'Holocauste et éducateur, âgé aujourd'hui de 98 ans. Et enfin, le MR n'a pas changé d'avis, il s'oppose à une hausse de la TVA, c'est ce qu'a répété encore hier son président Georges-Louis Boucher lors d'un débat télévisé des partis francophones sur RTL TVI. Benjamin Netanyahou a adressé hier une sévère mise en garde à l'Iran, affirmant qu'une attaque contre Israël constituerait, je cite, l'une de ses dernières décisions, Blaise.
Oui, le Premier ministre s'exprimait lors d'une visite à la Yeshiva Esder Afikei Da'at de Sderot, alors que les tensions entre Téhéran et Washington connaissent une nouvelle escalade. Regardez également ce qui se passe avec l'Iran, ils attaquent et menacent tout le monde, mais pas ici, car ils savent déjà ce que signifierait une attaque contre Israël. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou. Cette intervention survient après de nouvelles frappes américaines contre des installations iraniennes et une riposte de Téhéran visant des intérêts des États-Unis dans plusieurs pays de la région. Benjamin Netanyahou a également évoqué la situation dans la bande de Gaza, assurant qu'Israël avait profondément modifié la réalité sécuritaire dans la région. Nous contrôlons une vaste zone de la bande de Gaza et nous agissons contre ceux qui nous menacent, a-t-il affirmé. Le Premier ministre est également revenu sur l'arrestation du chef de la sécurité intérieure du Hamas, capturé mardi au cours d'une opération menée par le Shin Bet et Tsahal au cœur de la ville de Gaza. Il a par ailleurs cité plusieurs dirigeants du Hamas et du Hezbollah éliminés depuis le massacre du 7 octobre, parmi lesquels Yahya Sinwar, Mohamed Def, Ismaël Haniyeh, Mohamed Sinwar, Hassan Nasrallah et Izz al-Din al-Haddad.
Le président américain Donald Trump a déclaré hier dans une série de déclarations qu'Israël ne devait pas s'inquiéter de l'escalade actuelle avec l'Iran.
Et qu'il ne s'attendait pas à ce que le conflit avec la République islamique dure encore très longtemps. S'adressant à la chaîne publique Khan lors d'un entretien téléphonique, Donald Trump s'est engagé à protéger Israël face à cette nouvelle escalade qui a eu des répercussions dans tout le Moyen-Orient. Israël ne doit pas s'inquiéter, vous savez pourquoi ? Parce que je suis le président et que je veillerai sur Israël, a déclaré Donald Trump. Interrogé séparément par un journaliste dans le bureau ovale, spécifiquement sur la dernière escalade et sur la durée probable de celle-ci, Donald Trump a répondu « pas trop longtemps ». Il a ensuite abordé de manière plus générale le conflit dans son ensemble et a insisté sur le fait que celui-ci prendrait également fin prochainement, sans toutefois donner de calendrier précis.
Et de son côté, eh bien, le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth aurait discrètement prolongé les déploiements des troupes américaines au Moyen-Orient jusqu'en 2027.
Oui, effectivement, Didier. Alors même que le président américain Donald Trump envisagerait de déclarer la fin de la guerre contre l'Iran, selon un article du Wall Street Journal qui cite une source proche des négociations, Pete Hegseth maintient environ 50 000 soldats dans la région et prolonge les déploiement des équipages de navires de guerre, des unités de défense aérienne et des parachutistes. Dans le même temps, précise le Wall Street Journal, Donald Trump serait en pourparlers avec ses conseillers pour savoir s'il convient de déclarer la fin de la guerre contre l'Iran, alors même que les combats ont repris cette semaine avec une série de frappes de représailles entre les États-Unis et l'Iran.
Et dans le même temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a réaffirmé quant à lui hier que Washington ne permettrait jamais à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.
Oui, c'est comme vous l'avez dit, Marco Rubio qui a déclaré cela, le tout en prévenant que les États-Unis continueraient à agir militairement contre les menaces iraniennes. Le problème central est le suivant. L'Iran ne sera jamais autorisé à posséder une arme nucléaire, certainement pas tant que le président Trump sera au pouvoir. C'est ce qu'a déclaré Marco Rubio sur Fox News. Une mise en garde qui intervient dans un contexte de nouvelles hostilités entre Washington et Téhéran. Les forces américaines ont récemment frappé des équipements militaires iranien près du détroit d'Hormuz en réponse à des attaques attribuées aux gardiens de la révolution contre la navigation commerciale et les militaires américains présents dans la région. Marco Rubio a accusé l'Iran de poursuivre ses attaques contre les navires marchands dans le détroit d'Hormuz. Il a assuré que les États-Unis continueraient de cibler toute installation représentant une menace immédiate pour leurs forces ou pour le trafic maritime mondial.
Et justement, dans ce cadre-là, le commandement central américain, le CENTCOM, a publié une vidéo montrant ses forces en train de faire respecter le blocus naval imposé à l'Iran.
Selon le bilan communiqué par l'armée américaine du 2 septembre, c'est-à-dire hier, 86 navires commerciaux ont été déroutés, 3 bâtiments ont été neutralisés et 2 autres ont été abordés afin de vérifier leur conformité avec les restrictions en vigueur.
Et les alliés des États-Unis soutiendront les efforts que nous déployons pour asphyxier économiquement l'Iran, c'est ce qu'a annoncé le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.
L'Iran est en agonie économique et sera bientôt prêt à conclure un accord avec les États-Unis, a-t-il ajouté. S'exprimant à l'issue du sommet du G20, Scott Bessent a expliqué qu'il avait saisi cette occasion pour inciter les alliés à se joindre à l'effort américain visant à isoler complètement l'économie iranienne dans le cadre de l'opération Economic Outcast. Cette opération a reçu un formidable élan de soutien, selon Scott Bessent. Ce que je peux vous dire, c'est que bon nombre de nos alliés se sont manifestés et ont affirmé qu'ils feraient tout ce qui était nécessaire. Fin de citation. Il n'a pas donné plus de détails sur la forme que prendrait ce soutien.
Et on reste encore dans ce conflit qui oppose les États-Unis et l'Iran. Le président des Émirats Arabes Unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et le président américain Donald Trump ont évoqué l'actualité au Moyen-Orient et la coopération bilatérale qu'ils entretiendraient lors d'un entretien justement téléphonique. C'est ce que rapporte l'agence de presse officielle des Émirats Arabes Unis, WAM. Israël fournit quotidiennement plus de 70 000 mètres cubes d'eau à la bande de Gaza.
Oui, c'est ce qu'a affirmé le Kogat hier, l'organisme du ministère israélien de la Défense chargé de coordonner les activités gouvernementales dans les territoires. Dans un message publié sur sa page Facebook officielle et adressé directement aux habitants de Gaza, le Kogat a présenté plusieurs mesures destinées à améliorer l'accès à l'eau, l'assainissement et les conditions d'hygiène dans l'enclave. Selon les chiffres communiqués par l'organisme, l'approvisionnement en eau repose sur 4 conduites, 2 usines de dessalement, 170 puits et 250 citernes mobiles. Le Kogat affirme également que des centaines de toilettes portables ont été installées dans des centres d'hébergement. L'arrivée de citernes d'eau et l'évacuation des déchets auraient aussi été coordonnées dans plusieurs secteurs à la demande des habitants.
Israël à présent, le président Yitzhak Herzog insiste sur le fait que les autorités israéliennes prennent au sérieux la violence endémique des habitants des implantations en Judée-Samarie, et ce, après avoir été interpellé sur le sujet lors d'une interview accordée à CNN.
Le président de l'État d'Israël qualifie les auteurs de ces actes de délinquants juvéniles et affirme qu'un effort majeur est déployé par nos autorités pour mettre un terme à ces activités et traduire les responsables en justice, je cite. Il a également souligné qu'une série d'arrestations a eu lieu en début de semaine, même si la plupart des attaques quasi quotidiennes perpétrées par les habitants des implantations ne donnent lieu ni à des arrestations, ni à des poursuites judiciaires. Yitzhak Herzog a comparé ce phénomène à la violence dans les quartiers défavorisés, bien que les deux phénomènes soient différents, car les auteurs de ces actes en Judée-Samarie affirment souvent agir pour des motifs idéologiques nationalistes et cherchent à expulser les Palestiniens des terres.
On reste dans Israël et la politique israélienne. À moins de 2 mois des élections, et bien tous les jours on a droit à un tas de sondages, et un sondage télévisé israélien publié hier a révélé que le bloc des partis soutenant le Premier ministre Benjamin Netanyahou était en fait à égalité avec ses adversaires.
Ce qui marque un revirement radical par rapport au dernier sondage, même si aucun des deux camps ne devrait être en mesure d'obtenir la majorité à la Knesset. Selon ce sondage, si les élections du 27 octobre avait lieu aujourd'hui, les blocs pro et anti-Netanyahou remporteraient chacun 53 sièges, soit 8 de moins que la majorité requise de 61 sièges. Les partis arabes détiendraient les 14 sièges restants. Ce résultat marque un changement significatif par rapport au précédent sondage de la chaîne réalisé il y a une semaine qui donnait l'opposition en tête face aux partis pro-Netanyahou avec 57 sièges contre 48, les partis arabes en détenant 15. Ce changement semblait principalement dû à l'entrée à la Knesset de 2 partis de droite pro-Netanyahou, le peuple d'Israël, d'Ofer Winter, avec 4 sièges, et la nouvelle fusion des partis de droite nationaliste, sionisme religieux et Zehout, avec 6 sièges. Par ailleurs, le Likoud de Benjamin Netanyahou a réduit son écart avec le favori des élections, le parti d'opposition Yachar, dirigé par Gadi Eisenkot. La semaine dernière, la 13e chaîne avait estimé que Yachar remporterait 24 sièges et le Likoud 19. Cette semaine, en revanche, Yachar Bachar en remporterait 22, soit un de plus que les 21 du Likoud.
Et justement, toujours en ce qui concerne ces élections, le général de brigade de réserve est candidat à cette élection. Ofer Winter, le président du nouveau parti Amcha Israël, a posé hier une condition ferme quant à son entrée dans un futur prochain gouvernement.
Et c'est l'adoption avant la formation de la coalition d'une loi instaurant une obligation de service pour tous. Nous ne rejoindrons pas un gouvernement qui n'aura pas adopté au préalable une loi mettant fin à l'évasion du service militaire et exigeant que chacun se présente et contribue. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse à Tel Aviv. Si cela ne se produit pas, nous ne participerons pas au gouvernement. Point final, c'est ce qu'a insisté Ofer Winter. Le dirigeant politique affirme que chaque jeune en âge de servir devra se présenter devant les autorités et qu'aucun secteur de la société ne pourra se placer au-dessus de la loi. Il souhaite également que les aides accordées par l'État soient modulées en fonction de la contribution de chacun.
Des centaines de milliers d'étudiants juifs à travers le monde ont reçu une lettre personnelle et un message vidéo de Nate Lepsiger, survivant de l'Holocauste et éducateur âgé aujourd'hui de 98 ans.
Oui, et ce à l'occasion de leur retour sur les campus pour la nouvelle année universitaire dans un contexte de montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. Cette initiative internationale menée par l'International March of the Living rassemble des organisations juives et des groupes d'étudiants du monde entier afin de diffuser le message de Nate Lepsiger qui appelle les jeunes juifs à être fiers de leur identité, à s'opposer à l'antisémitisme et à rester attachés à Israël. Dans sa lettre, Nate Lepsiger exhorte les étudiants: n'oubliez pas, vous n'êtes pas responsable de la haine qui vous est adressée et vous n'avez pas à cacher qui vous êtes pour gagner le droit d'appartenir à une communauté. Ne laissez jamais ceux qui vous haïssent vous définir. Ne laissez personne vous imposer un faux choix entre votre identité juive et votre place dans le monde. Personne ne devrait exiger de vous que vous reniez l'histoire juive, que vous reniez le peuple juif ou que vous renonciez à votre lien avec Israël. Soyez courageux mais ne restez pas seuls. Retrouvez-vous les uns les autres, soutenez le camarade de classe qui a peur ou qui est isolé. L'avenir de la vie juive passe entre vos mains. Portez-le sans excuse, avec compassion et force, peut-on lire notamment dans cette lettre forte de sens adressée par Nate Lepsiger à des centaines de milliers d'étudiants juifs à travers le monde.
Tout autre chose à présent, la Thaïlande réduira de 60 à 30 jours la durée du séjour sans visa accordé aux touristes israéliens à compter du 15 septembre prochain, selon une nouvelle réglementation publiée au journal officiel de ce pays.
Les voyageurs arrivant au plus tard le 14 septembre pourront encore bénéficier d'une autorisation de séjour allant jusqu'à 60 jours. Les Israéliens déjà présents en Thaïlande conserveront également la date de départ qui leur a été accordée lors de leur entrée dans le pays. Israël qui figure parmi une soixantaine de pays et territoires concernés par cette mesure, aux côtés notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de l'Inde, du Japon, des Émirats arabes unis et de la plupart des pays européens.
Une fois n'est pas coutume, on va prendre la direction de l'Afrique maintenant. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu hier soir au mur occidental à Jérusalem dans le cadre de sa visite officielle en Israël.
Il était accompagné de la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, ainsi que de plusieurs membres d'une délégation gouvernementale. Le président congolais a été accueilli par le rabbin du mur occidental et des lieux saints, Shmuel Rabinovitch, qui lui a présenté l'histoire du site et son importance pour le peuple juif. Les deux hommes ont prié ensemble pour la paix entre les deux pays et la poursuite de leur relation d'amitié. Félix Tshisekedi a ensuite déposé un message personnel entre les pierres du mur.
On retourne en Europe. L'ancien ambassadeur britannique auprès des Nations Unies, Jeremy Greenstock, accuse Tony Blair d'avoir demandé à l'autorité palestinienne de retirer toute mention du mot Palestine de ses manuels scolaires.
L'ancien diplomate en poste à l'ONU entre 1998 et 2003 a formulé cette accusation hier dans le podcast de David Hurst, rédacteur en chef de Middle East Eye. Il affirme tenir cette information d'une source gouvernementale de haut niveau sans toutefois l'identifier. identifiés. Selon Jeremy Greenstock, l'ancien premier ministre britannique aurait récemment été chargé par le Conseil de la paix de transmettre cette demande lors d'un déplacement à Ramallah. Cette modification du programme scolaire aurait été présentée comme une condition pour considérer l'autorité palestinienne comme capable de parvenir à un accord avec Israël. Un porte-parole de Tony Blair a fermement rejeté ces affirmations auprès du Jerusalem Post, les qualifiant de fausses et de pure invention. Son équipe affirme également avoir prévenu à Middle East Eye avant la publication que cette version des faits était inexacte.
Chez nous, le nouvel appel lancé par plusieurs États membres de l'Union européenne en faveur de l'utilisation des actifs russes immobilisés n'a suscité que peu d'enthousiasme ou d'intérêt auprès de mes collègues. C'est ce qu'a constaté et déclaré hier le ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévost à l'issue d'une réunion informelle avec ses homologues européens en Irlande.
La semaine dernière, la Pologne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède avaient adressé une lettre à la Commission européenne pour lui demander d'explorer de nouvelles pistes permettant d'utiliser les actifs de la Banque centrale russe immobilisés dans le cadre de sanctions européennes afin de soutenir l'Ukraine. La Belgique est particulièrement concernée par cette question car la majeure partie de ces 200 milliards d'euros sont logés chez Euroclear, une institution financière basée à Bruxelles. Le gouvernement belge s'oppose donc à une utilisation de ces actifs, craignant les risques financiers et juridiques d'une telle manœuvre. J'ai souligné que la proposition belge n'avait pas changé depuis un an, a déclaré Maxime Prévost à l'issue du débat qui s'est tenu dans la ville de Wicklow en Irlande. Les raisons de notre opposition n'ont pas disparu comme par miracle depuis lors. Il est très risqué d'utiliser ces actifs par le biais d'une procédure qui s'apparente à une confiscation. Ce sont les mots du vice-premier ministre. Il a réitéré qu'il valait mieux maintenir ses avoirs gelés jusqu'à ce que la Russie ait indemnisé l'Ukraine pour les dommages de guerre.
Et enfin, pour terminer ce journal, on reste en Belgique où le MR n'a pas changé d'avis. Il s'oppose toujours à une hausse de la TVA. C'est ce qu'a répété hier son président Georges-Louis Boucher sur le plateau de nos confrères d'RTL TVI au cours d'un débat entre les présidents des partis francophones.
La semaine prochaine, le gouvernement fédéral reprendra ses travaux budgétaires en vue d'élaborer une trajectoire de redressement des finances publiques d'ici 2029. Une hausse d'un point de la TVA est évoquée parmi les pistes qui permettraient d'atteindre les 10 milliards d'euros prévus. Il n'y aura pas de hausse de la TVA, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'a assuré Georges-Louis Boucher à ses électeurs, partenaires de la coalition Arizona comme le MR. Les engagés se disent en revanche capables d'y réfléchir dès lors que la mesure permettrait de diminuer la fiscalité sur le travail, selon leur président Yvan Verhoekstraat. Les centristes s'alignent sur un discours davantage entendu en Flandre, particulièrement dans le chef du Premier ministre Bart De Wever.